Bonjour à tous. Vous savez que pendant tout l'été, nous entamons cette étude, ces études-là sur les psaumes. Et vous savez que les psaumes, ce sont des cantiques de reconnaissance, d'adoration que ceux-là qui nous ont précédés ont écrit et pour nous amener à l'adoration de notre Dieu. Et ce matin, nous sommes en présence du psaume 105 et nous allons regarder ce que le Seigneur va nous enseigner à travers ce beau psaume qui est devant nous. Il vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir trouver un sujet de louange. Parfois, même dans les réunions de prière, je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand vient le temps de présenter, on demande est-ce que quelqu'un a une louange? Des fois, c'est difficile de pouvoir identifier telle louange, d'exprimer une louange. Parfois, c'est à cause de juste la timidité ou bien la gêne. On est gêné pour dire nos louanges au Seigneur. Et des fois, c'est juste parce qu'on n'en trouve pas. On cherche et puis ça ne vient pas. On ne voit pas non, de sujet de louange pour notre Dieu. Et souvent, quand on en a, et nos louanges tournent autour des choses très personnelles. Disons par exemple notre santé. On remercie pour le conjoint, pour la conjointe, pour l'emploi qu'on a. On remercie pour la réponse à une prière quelconque, etc. Tout ça, c'est bien de reconnaître que Dieu a fait ces choses-là dans notre vie. Mais qu'est-ce qui arrive quand la santé nous manque? Quand on attend ce conjoint, cette conjointe-là qui n'arrive pas? Quand on cherche un travail pendant des mois, peut-être des années même, qu'on ne trouve pas de travail? Qu'une prière est restée sans exaucement? Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas trouver des sujets de louange pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut trouver des sujets de louange quand tout va mal dans notre vie? Tout va mal. Est-ce qu'on peut encore trouver des sujets de louange? D'après ce qui est écrit dans notre psaume 105 qu'on va voir bientôt, je crois qu'on remarque que l'auteur nous encourage à ne pas trouver nos sujets de louange dans nos circonstances personnelles, car ces circonstances personnelles peuvent changer. Et au cours de notre vie, ces circonstances-là vont changer. Et il faut trouver des raisons profondes pour adorer, pour louer notre Dieu. L'auteur du psaume 105 nous invite à trouver tous nos sujets de louange dans les attributs, dans les qualités de Dieu qui sont révélées dans sa parole. Et c'est pour cela que nous avons sa parole, pour nous rappeler ses fidélités. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Je vous invite à lire avec moi le psaume 105. C'est un psaume assez long. Ils m'ont donné comme 1 heure, disons, là. C'est ça? 1 heure et demie, voilà. Maintenant, je ne vous tiendrai pas aussi longtemps parce qu'on aura tellement de richesses dans ce psaume-là, on n'aura pas le temps de creuser tout. Fait que on va aller par bloc, essayer de sortir l'essentiel dans ces blocs-là. Alors, lisons, suivez avec moi, dans le psaume 105. Il est dit, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez. Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, des miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfants de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa les moyens de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignait la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres, et il amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leur eau en sang. Il fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches vénéneuses, les poux et tout leur territoire. Il leur donna pour fuite de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers. Il brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent des sauterelles sans nombre. Ils dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés de leur pays, tous les princes de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvient de sa parole sainte et Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple avec allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Et il leur donna la terre des nations. Et ils possédèrent le fruit du travail des peuples. Afin qu'ils gardassent ses commandements et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel. Amen. Si je devais donner un titre au partage de ce matin, je dirais, puisons dans la parole de Dieu nos sujets de louange. Le psalmiste a débuté son psaume avec une série de verbes. Et ces verbes-là, vous l'avez probablement remarqué, ils sont tous à l'infinitif. Et principalement les 5 premiers versets du psaume 105, on peut lire, suivant les versions, louer, célébrer, chanter, parler, réfléchissez, suivant les versions, glorifier, ayez recours, chercher, souvenez-vous. Ce sont tous des verbes d'action qui nous demandent de l'action, faire quelque chose. Il nous invite à adorer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait et ce qu'il a fait de nous. Et cette adoration, quand on regarde de près, il semble avoir une triple portée. Et mais cette adoration, comme nous disons, c'est centré sur Dieu, mais avec trois dimensions. On peut observer une portée verticale. Et cette portée verticale-là, c'est une invitation à s'adresser à Dieu pour le louer, chanter à l'Éternel, célébrer l'Éternel. On se tourne vers lui pour l'adorer, en chantant, en parlant de lui. Une autre portée qu'on regarde, qu'on voit, si on observe bien dans le texte, c'est une portée horizontale, vers les autres. Et dans le verset 2, il parle où il dit « Faites connaître parmi les peuples ses œuvres ». C'est une autre portée de cette adoration où on s'adresse à Dieu, où on peut aller témoigner de ses fidélités, de ce qu'il a fait aux autres, pour témoigner, pour évangéliser. Mais aussi, on voit une troisième dimension qui est une dimension interne où on est interpellé à regarder à nous-mêmes pour voir ce que Dieu fait, pour parler à nos cœurs des miracles, des hauts faits, des actions merveilleuses de Dieu à notre endroit. Et tout ça fait partie de l'adoration. Ces trois dimensions, ces trois portées-là. Vers Dieu, on s'élève. On élève la voix, on se tourne vers lui pour l'adorer. On s'en va vers les autres pour parler des bienfaits de Dieu. C'est ce qu'on voit dans les versets 2. Et aussi, on se tourne vers toi. Le texte parle de se glorifier en Dieu. Ça veut dire d'être fier, de se sentir fier d'appartenir au Seigneur. Ça dit qu'on est à lui. Il nous appelle à nous souvenir de ce qu'il fait, de nous rappeler de ce qu'il fait pour nous. Et le psaume 103 nous dit très, très bien. Nous parle très bien de cela. Il parle à son âme, il dit « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est cette dimension interne qu'on voit qu'il adresse dans le début de ce texte-là, dans le but de ce psaume-là. Puis, ce qu'on remarque, c'est que dans les premiers versets, les cinq premiers versets, on voit un appel à tous. Où il appelle le monde, tout le monde à adorer, à chanter, à célébrer Dieu. Tout le monde. Il n'indique personne. L'invitation est lancée à tout le monde. Alors que, à partir du verset 5, il part du général pour aller vraiment au particulier et spécifique, personnel. Il s'adresse à un peuple particulier, pas tout le monde. Oui, tout le monde doit adorer, tout le monde doit louer l'Éternel. Mais là, il va chercher le peuple de Dieu. Il va s'adresser au peuple de Dieu. Il va dire Abraham. Il va dire Isaac. Il va citer le nom de ces personnes-là. Et ça nous rappelle vraiment le peuple de Dieu qui est appelé à louer l'Éternel. Les autres doivent appeler à louer l'Éternel. Mais particulièrement, le peuple de Dieu est appelé à louer l'Éternel. Et nous allons voir pourquoi. Et ce matin, nous comprenons que, puisque nous avons mis notre confiance en l'Éternel, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes cet Israël, nous sommes ce peuple de Dieu. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez lire Galates 3, vous allez vous en rendre compte que l'héritage qui a été promis à Abraham, c'est à nous aussi. Et c'est notre devoir, c'est notre responsabilité à nous de louer l'Éternel. Nous voyons cette progression du général au particulier, au personnel de la louange. Mais maintenant, à partir du verset 8 jusqu'à la fin de 44, le psalmiste, il retrace étape par étape toute la ligne historique de la fidélité de Dieu envers son peuple, de la fidélité de Dieu envers ses propres promesses. Il va s'arranger en utilisant les éléments qu'il va provoquer pour l'accomplissement de ses promesses envers son peuple. Et le psalmiste prend le temps d'aller chercher tout cela pour mettre, pour les étaler devant nous, le peuple de Dieu, pour nous inciter à la louange de son nom. Et le découpage de ces événements-là se fait suivant les grandes époques de l'histoire du peuple de Dieu. Si vous lisez le texte, vous allez voir ce que je dis là. Dans les versets 8 à 15, le psalmiste nous rappelle les promesses que Dieu a faites. D'abord, c'est son alliance. C'est cette promesse qu'il donne à un homme qui n'avait pas de parents, en fait, qui n'avait pas de postérité, on va dire, Abraham. Il a sorti de Ur. Il lui dit d'aller quelque part où il ne savait même pas, mais avec une promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. On le dit dans Genèse 12. C'est cette promesse-là qui... Le psalmiste va aller chercher cette promesse-là où Israël n'est même pas encore un peuple et il va passer à travers toutes les étapes de la vie d'Israël pour nous montrer que Dieu, à travers toutes les étapes, a tenu promesse pour son peuple. Il commence avec la promesse, l'engagement même de Dieu envers Abraham. Il parle du temps où le peuple Israël n'était même pas un peuple. Ils étaient même existants, même pas. Et il dit, ils étaient vulnérables et Dieu était là pour les protéger. Dieu les a gardés, Dieu les a défendus. Je ne sais pas si vous vous rappelez déjà pour Abraham, quand Abraham, le neveu d'Abraham, Lot s'est fait, il a été capturé par des rois, une coalition de rois. Et Dieu va permettre déjà à Abraham, un homme qui n'était pas un guerrier, mais il a fait une promesse à Abraham que sa nation deviendrait une grande, sa postérité deviendrait une grande nation. Et déjà là, mais qu'il n'y ait même pas encore de peuple, on voit Dieu qui dirige les événements et protège Abraham pour l'accomplissement de son pays, de sa promesse. Ça, c'est jusque dans les versets 15. Et à partir du verset 16 à 24, on voit que Dieu, le psalmiste, nous rappelle de la providence de Dieu. Dieu qui pourvoit. Un Dieu qui donne sa protection souveraine, des choses qu'on ne comprend pas, mais Dieu, souverainement, il protège son peuple. Et c'est intéressant de voir les verbes qui sont utilisés ici. Dans ma version, il parle des verbes d'action et des verbes qui parlent vraiment fort pour nous montrer que c'est Dieu qui est à l'origine de tous ces événements-là, que c'est Dieu qui conduisait ces événements-là pour, premièrement, la naissance de son peuple en Égypte, parce qu'il avait fait la promesse. Le peuple n'existait pas, mais il a dit que ce peuple va exister. Il va s'arranger pour produire des événements autour de cela. Pour que son peuple, la naissance de mon peuple Israël ait lieu, mais aussi pour l'accomplissement de tous ses desseins en cours de route. Dans l'un des versets, il parle, il utilise les textes comme ça, les termes comme ça. Il appela sur le pays la famine. Vous vous rappelez de cette famille-là qui existait au Canaan? C'est Dieu qui l'a suscité, parce qu'il avait un plan. Et certaines versions disent qu'il coupa tout moyen de subsistance, pour mettre l'accent sur la famine, que c'est lui qui a provoqué cette famine-là au Canaan. Il dit qu'il coupa tous les moyens d'existence. Et dans d'autres versions, il dit qu'il tira la miche, lui retira la miche de pain. Ça nous dit clairement comment Dieu a suscité cette famine-là qui s'est abattue sur Canaan. Et tout ça, vous savez l'histoire, c'est pour pousser la famille d'Israël, de Jacob, à s'en aller où? En Égypte. Et le texte continue pour nous dire, et il envoya un homme devant eux. Vous vous rappelez qui? C'est Joseph. Il envoya Joseph. Joseph est arrivé en Égypte. Et vous connaissez toute l'histoire, il a préparé pour que, lorsque la famine ait lieu, que son père, sa famille, tout le monde vienne acheter du pain, tout ce qu'ils ont besoin en Égypte. Et c'est là, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu qui est en action. Il envoya Joseph. Est-ce que ça a été facile pour Joseph? Non! Il dit, Joseph fut vendu comme esclave. Il fut vendu comme esclave, c'est le texte qui est utilisé là. Dans le verset 19, il dit, pour l'éprouver, Dieu avait un plan dans tout ce qui se passait dans la vie de Joseph, pour qu'il puisse accomplir ses desseins. Plus tard, dans le texte, il parle, en parlant du peuple, que la nation que Dieu va susciter d'Abraham, il dit, il rendit son peuple fécond. Fait que les enfants d'Israël, sans qu'ils le sachent, ils se mettent à faire des enfants. Ils se multiplient. Mais ça, c'était dans le plan de Dieu, parce qu'il veut donner une famille. Il veut cette famille-là pour Abraham, cette postérité pour Abraham. Et cette postérité-là, quand les Égyptiens regardent ça, ils voient ce peuple-là qui se multiplie. Ils ont eu peur. Et ils ont eu peur et ils avaient peur pour la sécurité même de l'Égypte. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez l'histoire. Ils les ont mis en esclavage. Mais quand on lit l'histoire, on pense que c'est le cœur de Pharaon qui les a mis en esclavage. Oui, c'est ça, oui. Dieu a utilisé les mauvais plans, les mauvais motifs de Pharaon pour accomplir son dessein. Mais dans le verset 25, le texte nous dit, c'est lui qui changea le cœur de Pharaon. Dieu a un plan, à travers tout cela, il changea le cœur de Pharaon pour que le Pharaon fasse de l'esclavage, fasse de ses enfants des esclaves. Aux yeux humains, on ne comprend pas ça. C'est pas normal, c'est de l'injustice. Mais c'est le plan de Dieu pour arriver à ses fins, pour accomplir ses promesses pour ses enfants. Au milieu de tout ça, vous connaissez l'histoire, l'esclavage en Égypte, Dieu les a protégés, Dieu les a gardés. Et vous vous rappelez du psaume 91, verset 7, qui nous dit, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. C'est la protection que Dieu accorde à ses enfants. Il l'a accordé à Israël et c'est la protection qu'il accorde à tous ses enfants. Aujourd'hui, pas de distinction. On voit que c'est lui, après l'esclavage, qui va susciter un libérateur. Et tout ça, l'auteur prend le temps d'aller dans tous ces détails-là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je n'ai pas le temps pour rentrer dans ces détails-là, mais je vous les énumère. Il dit que Dieu a suscité un libérateur et, vous connaissez l'histoire, rendu chez le pharaon qui, malgré cela, ne voulait pas laisser partir les Hébreux. Il dit plus tard que dans le verset 30, etc., il dit, le pays fourmilla de grenouilles. Vous vous rappelez les dix plaies qu'il a envoyées sur Égypte. Tout ça, c'est pour amener Pharaon à baisser dans son orgueil et laisser partir son peuple. On voit Dieu intervenir tout le long de l'histoire, en fait, jusqu'à cet esclavage, cette libération de l'esclavage du peuple d'Israël que Dieu, il suscite. Il provoque des événements pour que son peuple soit protégé, soit gardé et pour accomplir sa promesse. L'auteur continue et on voit des blocs comme ça. Dans le verset 28 à 41, on voit une provision, sa provision à lui, de Dieu, sa protection. Et on voit dans le désert la présence même de Dieu dans le désert où il est dit et il ouvrit le rocher. Dans le désert, Dieu ouvre le rocher pour son peuple, pour que son peuple puisse trouver à boire. C'est ce genre de Dieu qui pourvoit pour ses enfants en tout temps. On voit aussi que toutes ces choses-là s'accomplissent avec fidélité à travers la vie, l'histoire même du peuple Israël. Mais ce qui est remarquable, c'est que à la fin, dans le verset 44, on voit l'accomplissement réel de la promesse du retour en Canaan. Intéressant de voir que le peuple a été forcé par la famine de quitter Canaan, mais c'est Canaan qui leur avait été promis comme terre promise. Et après tout ce passage-là, d'aller en Égypte, l'esclavage et tout ce qui vient avec, vous connaissez l'histoire, là Dieu va les ramener à travers le désert en Canaan, oui, parce que c'est Canaan qui leur avait promis. Mais cette fois-ci, ils vont revenir comme propriétaires. C'est ce que le texte nous dit. Il est sorti, et dans le verset 43, il dit, il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus, ceux-là qu'ils ont choisis en parlant du peuple Israël, au milieu des cris de joie. Imaginez ce peuple-là qui est sorti de l'esclavage. On ne va pas parler de la mer Rouge, etc. Mais vous connaissez l'histoire. Et le verset 44 nous dit, il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples. Tout le travail que ces peuples-là ont fait pendant 400 ans, Ce sont les Hébreux, le peuple Israël, qui en jouissent maintenant parce que c'était la promesse de Dieu. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, Dieu avait un plan, vous le savez, à travers tout cela, mais sa promesse allait s'accomplir et l'on voit sa promesse s'accomplir. Et le peuple, le psalmiste prend le temps d'aller chercher ces détails-là pour les exposer au peuple de Dieu et tout ça pour les pousser à la louange, pousser à adorer notre Dieu. Est-ce qu'il est différent pour nous aujourd'hui? Je vous garantis, ce n'est pas différent. Dieu fait ces mêmes choses dans chacune de nos vies, dans la vie de ses enfants. Et pourquoi est-ce que Dieu va faire toutes ces choses-là, va garder ses promesses? Et le texte nous le dit tout simplement à la fin, là. Il dit, afin que, dans verset 45, afin qu'il gardasse ses commandements et qu'il observasse ses lois. Dieu a fait tout ça pour montrer sa fidélité. Il a gardé son alliance. Il a gardé sa promesse. Il a donné la terre promise. Il les a accompagnés tout le long. Et rendu là, il leur a dit, je fais tout ça pour que vous appreniez à me connaître qui je suis. Et sachant qui je suis, vous devez m'obéir. Tout ça devrait amener le peuple à l'adoration. Et l'adoration va les amener à l'obéissance. Et c'est ce que Dieu veut nous enseigner ce matin, je pense, entre autres. L'adorer, oui, l'adorer, c'est bon. Mais cette adoration doit nous amener à être des enfants obéissants à notre Dieu. Parce que ça vaut la peine. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu qui nous a conduits à travers toute notre vie. Je ne sais pas quelle situation vous vivez dans votre vie ce matin. Mais je sais que chacun de nous vit une situation. À quelque part, dans notre vie, on vit des situations. Et chaque période, comme Dieu l'avait fait, dans chaque période, en fait, le psalmiste l'avait fait, il a récupéré toutes ces traces de l'intervention, ces empreintes de Dieu dans la vie, dans l'histoire du peuple Israël. Il voulait juste démontrer une chose, en ramassant tous ces faits-là dans l'histoire d'Israël, que Dieu est fidèle à son alliance. Dieu est fidèle à sa promesse à travers toute l'histoire. C'est vrai pour le peuple d'Israël, c'est vrai pour chacun des croyants ce matin. Chaque période dans ton histoire, contient un sujet de louange. Il faut juste prendre le temps de regarder, de réfléchir sur cette histoire-là. Vous allez voir qu'il y a un sujet d'adoration là-dedans. Vous êtes dans une période d'attente, je ne sais pas pourquoi, mais comme Abraham, Dieu n'oublie pas ses promesses. Vous êtes peut-être en train de vivre une période d'injustice, je ne sais pas. Mais comme pour Joseph, dans cette injustice-là, Dieu est à l'œuvre. Lorsque les hommes agissent injustement envers toi, Dieu est là. Il contrôle cet événement-là aussi. Vous vivez peut-être une période d'isolation. Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais si vous vivez une période d'isolation, comme pour Joseph, en prison, il n'y a pas de famille, pas de mari, pas de femme, pas d'enfant, dans ton quotidien, ça ne signifie pas que Dieu est absent. Dieu est là, même si toutes ces choses-là sont manquantes. Une période d'oppression, une période de difficulté, comme pour le peuple d'Israël, qui a connu tout cela. Dieu voit ta souffrance et il va intervenir au bon moment. Faites-lui confiance. Une période de confusion, on ne sait pas quoi faire. Je pense à certains jeunes qui peut-être vont aller au cégep. Ils sont toutes mêlées là. Rappelez-vous que comme dans le désert, vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas, relisez cette histoire. C'est pour cela qu'elle est imprimée dans la Bible, pour nous rappeler, pour éveiller notre mémoire. Même si vous êtes confus, comme dans le désert, Dieu va te conduire, Dieu te conduit. Et même si tu ne sais pas où tu t'en vas, lui, il connaît la destination, sa destination pour toi. Et peut-être tu vis un besoin. Tu as des manquements. Tu manques quelque chose ce matin, je ne sais pas quoi. Ça peut être ton cas. Rappelle-toi que Dieu peut rassasier même durant la famine. C'est ce qu'il fait. Il est tout puissant. Il commande les événements. On a dit beaucoup de choses. Le texte est long. On n'a pas eu le temps de rentrer dans tous les détails, mais une chose que je vous invite à observer. Car regardez dans votre Bible, le premier verset. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est dit là, le premier verset, le premier mot, les deux premiers mots, qu'est-ce qu'il dit dans votre Bible? Quel est le verbe? Célébrer. Pour d'autres versions, c'est louer. OK? Regardez le dernier verset. Le dernier verset, selon les versions, qu'est-ce que ça dit? Louer. Louer, vous êtes d'accord? Ma compréhension, je vous le partage, c'est peut-être pas la meilleure. Ma compréhension, est-ce que vous avez déjà eu un sandwich au fromage? Un sandwich, qu'est-ce qu'il y a dans un sandwich? Le pain. Le pain. N'est-ce pas? Et au milieu, qu'est-ce qu'il a? Les ingrédients. Pour moi, c'est ce que je vois là-dedans. Je vois le pain loué au-dessus. Le pain loué en bas. Puis tous les ingrédients, les tomates, les laitues et tout ça, là, ils sont à l'intérieur de tout ça. C'est ce qui est écrit, c'est ce que je vois. Je ne sais pas. Je vous invite à observer ça ce matin. Et je vous invite à observer visuellement ça. Un sandwich à la louange. Louer. Louer. Et là, vos laitues, sa fidélité, sa protection, sa délivrance, son alliance, sa direction, ses promesses. Ajoutez-en des ingrédients et prenez une bouchée dans ce sandwich-là. Pour le louer, chaque bouchée est une louange pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Rappelez-vous de cela. Même quand les temps sont difficiles, ouvrez cette Bible-là et allez puiser ces louanges. Vous allez voir là, ce qu'il a fait pour Israël, ce n'est pas différent dans votre vie. C'est la même chose. Il n'a pas changé. Et louez-le. Louez-le. La louange ne doit pas être simplement une émotion que nous ressentons. Elle doit être une réponse reconnaissante à tout ce que Dieu a fait pour nous et tout ce que Dieu est pour nous. La louange véritable, elle se manifeste par notre engagement à lui obéir et à marcher fidèlement dans ses voies. Ou en d'autres mots, louer Dieu, ce n'est pas seulement ouvrir nos lèvres pour célébrer, comme on l'a fait ce matin, ce qui est bon, ou pour déguster un bon sandwich à la louange, mais c'est aussi pour ouvrir nos cœurs pour lui obéir. À lui soit la gloire, par vos louanges. Amen.